Merci de votre fidélité à Grand Témoin qui vous présente aujourd'hui le professeur Gaston Bindo, ancien directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi et actuellement président du Mouvement pour le bien-être des Congolais, parti de l'opposition non institutionnelle. Pour vous, il a bien accepté notre invitation. Nous lui disons merci, professeur.
Moi, je vous remercie.
Dans cette émission, nous aborderons également le rôle de l'opposition non institutionnelle, ainsi que sa lecture sur les questions d'actualité, telles que l'adoption par le Parlement de la loi portant statut de l'opposition politique et d'autres encore. Avant tout, intéressons-nous à l'homme. Gaston Bindo est professeur d'université. En quel domaine?
Je suis professeur de philosophie politique et sociale, et j'enseigne aussi l'éthique et la philosophie africaine. Alors, la Marymount University à Los Angeles, et puis je suis aussi professeur visiteur toujours dans la Californie, près de Los Angeles, à Caltech Dominguez Hills University à Carson, qui est une banlieue de Los Angeles.
Mais avant d'arriver au doctorat, Gaston Bindo a fait l'école primaire. C'est où que vous avez étudié?
J'ai fait l'école primaire à l'école officielle de Yolocide A, donc à Yolocide,
à Kinshasa.
À Kinshasa, dans la commune de Kalamu. Et je fais l'école secondaire, d'abord le cycle d'orientation et des humanités à l'Athénée de Lemba. Je suis allé à l'université et je fais une année, je dirais trois mois des études de droit, et il y a eu la fermeture en 82 et je suis allé aux facultés catholiques de Kinshasa de 83 à 88 où je fais des études de sciences aussi.
Vous êtes né à Kinshasa?
Non, je suis né à Lusala en 1962 et en 1964 mon père était élu député et c'est comme ça que toute la famille est venue à Kinshasa. J'avais l'âge de 2 ans, donc j'ai grandi à Kinshasa, je suis un kibra.
Gaston Bindo est aussi père de famille, hein?
Oui, bien sûr, j'ai une fille.
Une fille seulement?
Écoutez, j'ai beaucoup de neveux et des nièces qui m'adorent, que j'adore aussi. Je vois pas pourquoi je devrais remplir toute la République tout seul. Et j'adore tous les enfants du monde. Ma vie ne s'est pas terminée là non plus. Je peux toujours continuer à en faire. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment l'intention de remplir la République.
Et aux facultés catholiques, quels sont les professeurs qui vous ont marqué?
J'ai été beaucoup marqué par le professeur Marcel Chamalengatumba, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a donné un autre regard de la philosophie. Parce qu'on croyait, quand on apprenait la philosophie, déjà à l'école secondaire et puis au début des années de l'université, on voyait que la philosophie c'était juste la spéculation, c'était la rhétorique,
c'était des rêveries.
Mais non, avec Chabalenga, j'ai appris l'aspect pragmatique de la philosophie, faire de sorte que la pensée puisse aller le plus loin possible dans le raisonnement critique avant d'être appliqué dans la réalité. Il y a eu aussi le professeur Kombe Oleko, qui est savant et un homme de beaucoup de foi. Et on croyait aussi, quand on commençait les études philosophiques, que la philosophie allait conduire à l'athéisme, c'est-à-dire au rejet de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais à travers Kombe Oleko, qui était un logicien, un spécialiste de philosophie des langages, très critique dans sa pensée, mais très charismatique dans sa foi, nous avons découvert que oui, on pouvait assumer la réflexion critique tout en étant chrétien, tout en étant croyant. Et cela m'a beaucoup aidé dans ma foi chrétienne. Je n'ai pas de problème, par exemple, à scruter la pensée de Jean-Paul Sartre, qui était un athée, de Heidegger, tout en étant chrétien.
Et de la science à la cuisine, il n'y a qu'un pas. Hein, Gaston Bindo aime la bonne cuisine.
J'aime la bonne cuisine et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui faisait la très bonne cuisine et qui me faisait travailler en tant que garçon à faire la cuisine. Et quand je suis allé faire mon doctorat à Strasbourg, j'ai été chez une marraine qui est dame magicien, qui était à la retraite et qui adorait faire la cuisine. Et bon, j'ai appris beaucoup de recettes françaises avec Madame Mariette, l'âme qui était comme ma mère à Strasbourg pendant que j'étudiais là-bas.
Grand Témoin s'entretient avec Gaston Bindo, ancien directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi et actuellement président du Mouvement pour le bien-être des Congolais MBC, parti de l'opposition non institutionnelle. Gaston Bindo, expliquez-nous comment vous arrivez à la politique.
J'étais étudiant. Je me retrouvais au cours de toutes les manifestations des étudiantines contre le régime dictatorial de Martial Mobutu. D'abord, quand j'étais étudiant à l'UNIKIN en 82, on a fermé l'université, on nous a exclu de l'université en cause de cela. Et après ça, je suis allé aux facultés catholiques. J'ai adhéré dans l'île de Pesce à l'époque de la clandestinité, après avoir assisté au discours du président scientifique dit à la place de professeur Roubou. Quand la DSP était venue disperser les gens, et je suis tombé dans un caniveau, et puis j'étais blessé. C'est alors que j'avais pris la décision de combattre Mobutu à l'époque.
Donc, vous êtes arrivé en politique par révolte ou vengeance?
Non, par révolte, parce que la révolte était légitime à l'époque, suite à cette dictature qui déshumanisait les Congolais. Et je me suis dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Et j'ai dit aussi qu'il ne suffit pas seulement de poser des actions, mais qu'on devrait aussi réfléchir de manière critique, de manière beaucoup plus approfondie, pour pouvoir penser un nouveau régime qui serait plus la dictature.
C'est cette révolte qui vous fait adhérer à l'UDPS.
J'ai adhéré à l'UDPS, justement, suite à cela, parce qu'à l'époque, l'UDPS était le seul parti qui combattait la dictature de Blanche Mobutu dans la clandestinité. Et des leaders comme Étienne Tshisekedi, professeur Martin Liaou, M. Kibasa Maliba, M. Boitiem, M. Birindo et autres faisaient l'objet de mon intégration.
Gaston Bindo, vous avez été directeur de campagne de l'UDPS ou d'Étienne Tshisekedi, sans prendre part aux élections. Certains compatriotes pensent que c'est vous qui avez induit Étienne Tshisekedi en erreur en refusant de participer au processus. Et cet aspect préoccupe également cet auditeur de Kinshasa.
Je m'appelle Anthony Moïse. Professeur Dindo, je voulais savoir. Dans la structure de l'UDPS, vous êtes directeur de la campagne pour l'UDPS. Là, pendant le processus électoral, je ne vous ai jamais vu battre campagne pour l'UDPS. D'ailleurs, l'UDPS n'avait pas pris part aussi au processus électoral. Peut-être pour des raisons personnelles, soit il a été empêché. Et par après, on vous a dit, c'est réalisé par l'Union pour la Nation. Mais il se fait que quelques temps après, on a constaté qu'il y a une décision qui est sortie, vous n'êtes plus de l'UDPS. Et je voulais savoir, quelle est votre identité politique actuellement? Est-ce que vous comptez rentrer à l'UDPS ou bien voulez-vous continuer de faire dans la politique?
Réaction Gaston Bindo. J'ai été désigné directeur de campagne de l'UDPS par le président Tshisekedi à l'issue du dialogue inter-congolais à Saint-City. Il a signé une décision à partir de Johannesburg en août 2003, mais désigné directeur de campagne pour préparer les élections présidentielles et législatives. À l'époque, j'étais encore aux États-Unis. Je suis revenu ici au pays en 2004 d'abord, en janvier, en avril, au mois de juin, et en août, nous sommes allés, je fais le président Tshisekedi, nous sommes allés à la convention du Parti démocrate américain aux États-Unis à Boston. Donc, c'était l'investiture de John Kerry. Pendant toute l'année 2004 et début 2005, le président Tshisekedi s'était engagé à aller aux élections. Et il m'avait chargé de préparer les élections, la campagne électorale. Et j'ai fait mon travail. 10 jours avant le 30 juin, la commission électorale indépendante a commencé le processus d'enrôlement. Avec beaucoup d'irrégularités, le 30 juin, j'ai mobilisé l'UDPS et le reste de la population chinoise en particulier. Nous sommes sortis dans la rue, on a tiré sur nous, j'ai risqué la mort. Et après ça, j'ai dit au président Tshisekedi que maintenant que tout ne s'est pas arrêté, le processus continue, je crois qu'on devrait se consacrer à préparer les élections. Le président Tshisekedi a estimé que, et les autres membres de l'UDPS ont estimé qu'on ne devrait pas s'enrôler parce qu'on n'a pas respecté l'UDPS et on devrait retourner au schéma de la conférence nationale et organiser les élections dans ce schéma-là. J'étais réaliste et j'ai dit cela n'arrivera pas parce que le pouvoir en place 1 plus 4 soutenu par la communauté internationale devrait continuer jusqu'à l'organisation des élections. Je suis moi-même allé me faire enrôler contre l'avis du parti, parce que je voulais pousser les partis à nos élections. Le 2 janvier 2006, le président Tshisekedi annonce l'entrée de l'UDPS dans le processus électoral, moyennant la réouverture de bureaux d'enrôlement à Kinshasa, parce que les méthodes d'élection ne se sont pas enrôlées à cause de ces décisions que le parti avait prises de ne pas s'enrôler, de la réouverture de bureaux à Kinshasa, dans les Kassai et dans les Bas-Congo, là où nos méthodes ne se sont pas enrôlées. Et pendant qu'on discutait de ça avec la Monique, il y a eu un groupe de gens de l'UDPS qui sont allés voir avec Malou, qui ne voulait pas du tout voir l'UDPS dans le processus électoral parce que l'absence de l'UDPS garantissait la victoire du candidat de son choix, donc Joseph Kabila. Alors Malou, je ne sais pas comment il a réussi à convaincre M. René Massamba, M. Mokendi et les autres qui étaient allés se réunir avec lui que le cadre de l'UDPS vont s'enrôler quand ils vont déposer leur candidature, mais les militants, les électeurs ne vont pas s'enrôler.
Et c'est ce qui vous a révolté, vous êtes
rentré
dans l'Union pour la Nation?
Non. J'ai dit ok. Maintenant, il faudrait tout faire, à mon avis, pour faire barrière à Joseph Kabila. Donc, j'ai dit, que voilà, moi, je vais soutenir tout celui qui va passer au deuxième tour contre Joseph Kabila. Et c'est fait que Jean-Pierre Bemba est passé au deuxième tour, et il y a eu beaucoup de cadres et de militants de l'UDPS qui estimaient qu'on devait soutenir Jean-Pierre Bemba contre Kabila. J'ai eu des entretiens avec Jean-Pierre Bemba, je lui ai demandé d'écrire personnellement au président Tshisekedi et au collège de fondateurs. Il a écrit au président Tshisekedi au collège de fondateurs. Le collège de fondateurs s'est réuni. Le porte-parole du collège de fondateurs Moukoka et le fondateur Deriquois, le doyen des fondateurs qui a 82 ans, ont tenu un point de presse pour dire que voilà, nous soutenons Jean-Pierre Bemba. Après avoir consulté le président Tshisekedi, nous avons pris la décision de soutenir Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça que, fort de cette décision, je me suis impliqué dans la campagne de Jean-Pierre Bemba et nous avons constitué l'Union pour la Nation, dont je suis un des cofondateurs.
Mais comment vous avez été radié à l'ordre de l'UDP?
Curieusement, j'ai appris que voilà, M. Valentin Moubaki, qui battait campagne pour que l'UDP soit en dehors du processus et que l'UDP ne puisse pas empêcher l'élection du président Kabila, Valentin Moubaki réunit une minorité du comité national de l'UDP et puis prend la décision d'exclure tous ceux qui sont allés soutenir Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas le seul, il y a eu Jean-Baptiste Bomanza, il y a eu beaucoup d'autres secrétaires nationaux et membres du comité national de l'UDPS et le fondateur de l'UDPS. Ce qui est grave parce que le collègue fondateur a le dessus sur tous les organes de l'UDPS.
Donc, vous soutenez que pour répondre à certains compatriotes que vous n'avez pas induit Étienne Tshisekedi en erreur?
Non, pas du tout. Je me suis battu pour que nous soyons dans les élections parce qu'à mon avis, la présence d'Étienne Tshisekedi allait bouleverser tout et toute la tricherie qui était préparée. N'allait pas réussir parce que Étienne Tshisekedi, c'est quand même l'homme le plus populaire du Congo.
Le lundi 17 juillet dernier, l'opposition extra-parlementaire, dont vous êtes l'un des ténors, a organisé son premier congrès. Mais l'on a signalé l'absence à ce congrès de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et du G14 de Dr Kabamba. Quel est votre but en organisant ce congrès?
Non, le G14 est là. Le G14, c'est pas seulement Dr Kabamba. Le G14 est constitué de plusieurs partis. Et c'est un groupement de partis politiques. Et le modérateur de G14, M. Richard Ezoula, qui est reconnu comme modérateur par Dr Kabamba, par Dr Boissa et les autres membres du G14, c'est lui qui dirige les travaux du congrès. En ce qui concerne l'UDPS, une invitation lui a été adressée,
mais c'est pas moi qui fais
la politique. C'est pas moi qui fais la politique de l'UDPS, si elle a décidé de ne pas être là, c'est sa propre responsabilité. Après avoir été exclu de l'UDPS, avec les autres, nous avons créé un nouveau parti, le mouvement pour le bien-être des Congolais. Parce que les gens disaient que vous étiez dans l'UDPS. Pour le bien-être, c'était pas un parti, c'était une plateforme électorale. Et après les élections, le vice-président Jean-Pierre Bemba n'a pas pu réorganiser l'Union pour la Nation, restructurer l'Union pour la Nation pour faire une plateforme de combat politique pendant ces 5 ans où nous sommes dans l'opposition. C'est ainsi que les personnalités comme Christian Badibangi, président de l'Union des socialistes congolais, Gabriel Moka, président du mouvement des démocrates congolais, et M. Zoula Mouzemba, de G14, et moi-même, nous sommes retrouvés pour appeler les autres partis afin de constituer l'opposition extra-parlementaire qui est reconnue par la nouvelle loi sur le statut de l'opposition. Les autres partis, MLC, RCDN, tous ces autres partis qui ont des députés qui sont dans l'opposition, qui ont des députés et des sénateurs, sont dans l'opposition parlementaire. Et nous autres ne sommes pas dans le Parlement. C'est ici que nous avons décidé de nous organiser et constituer la plateforme de l'opposition extra-parlementaire. C'est la raison d'être de ce congrès.
Nous avons quelqu'un pour vous en ligne, professeur Gaston Dindo, c'est M. Christian Badibangi.
Oh, quelle surprise.
M. Christian Badibangi, vous nous entendez?
Bonjour, cher ami. Oui.
Le professeur Dindo est très heureux, hein, il a le sourire.
Il est très surpris.
Dites-nous comment vous vous êtes rencontré, monsieur Badibangi.
Nous nous sommes rencontrés sur le champ de bataille, parce que le professeur Dindo, que Jean-Baptiste Bomanza, ainsi que quelques cadres qui sont restés à l'UDPS, qui ont peut-être au front comme nous, nous avons dit nous n'allons pas sauver la démocratie en restant chez nous, nous n'allons pas défendre notre peuple en restant cloisonné dans la maison. Nous n'allons pas libérer toutes les libertés fondamentales, respecter les principes démocratiques à partir du moment que nous ne sommes pas inscrits dans la bagarre. Ainsi, nous avons inventé le front et se sont retrouvés au front toutes ces personnalités qui aujourd'hui acceptent de donner leur sang pour le Congo.
Christian Badibangi, qu'est-ce que vous appréciez chez le professeur Dindo?
L'engagement d'accepter de s'effacer pour l'intérêt du Congo, l'engagement d'avoir éteint la peur pour comprendre ce qu'a dit M. Etienne, qui s'est dit le père de la démocratie, qui en fait a enseigné toute une Bible dont Badibangi maîtrise les chapitres et les versets, et aussi le cœur de ceux qui ont compris la leçon. Donc, nous devons faire ensemble le même parcours.
Alors, nous constatons que vous êtes très proche, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Son franc parler en face lorsque il répond du tic-tac des choses qu'il peut gérer avec le cœur.
Voilà il a cligné des yeux, il allait se tenir la tête. Professeur Dindo, vous avez quelque chose à dire à Christian Badibangi?
Non, c'est mon grand frère et j'apprécie beaucoup tout le soutien qu'il m'apporte personnellement et tous les encouragements. Ce que j'admire chez mon grand frère Christian Badibangi, c'est le fait qu'il oublie quelquefois que c'est le vieux, mais quand il s'agit de la lutte, il descend vers nous le plus jeune et nous faisons route ensemble. J'apprécie beaucoup cela et il sait comment nous rigolons souvent de tout cela et j'apprécie aussi sa lucidité et son pragmatisme dans tous les combats que nous menons. Depuis que je suis rentré au pays, nous avons toujours été de cœur et nous partageons toujours les mêmes avis par rapport à la lutte que nous menons.
Et là, vous ne vous dites que beaucoup de bien. Et vous, professeur Dindo, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Christian Badibang?
Ah, chez mon vieux, quelquefois, j'aime pas le fait que quand il me dit « Gaston, j'arrive à 10h », il apparaît à 12h.
Christian Badibang, vous confirmez?
Oui, exactement, on n'a pas, après 22 ans de lutte, on n'a pas tous les arcanes possibles qui nous permettent de respecter le rendez-vous, mais nous vivons selon la volonté du temps et de l'époque.
Merci beaucoup, Christian Badibangi. Restez avec nous. Concernant ce congrès, nous avons posé la question à Eve Bazaïba, ancienne membre de l'UDPS, qui nous a donné sa lecture. On l'écoute.
Je suis parmi les Congolais qui se sont battus pour le multipartisme intégral. Donc, libre cours à tout le monde de pouvoir réfléchir en termes politiques et s'organiser. Quand chaque fois nous parlons de nous mettre ensemble dans une plateforme de l'opposition et tout, ce n'est pas pour consacrer les monolithiques au sein de l'opposition. Autant nous refusons un monolithique politique, que ce soit du côté de la majorité de l'opposition, nous voulons l'expression libre. Mais la lecture actuelle, c'est de les encourager et puis ceux qui ne font pas partie prenante de ces congrès, qu'ils organisent aussi les congrès. J'ai appris que l'UDPS allait organiser son congrès. Et les questions d'actualité dont est l'heure, il y a les statuts de l'opposition et toutes autres choses, je crois que ça rentrait dans la matière à discuter. Le plus important, c'est que même si on aborde plusieurs approches, mais que ça converge dans un même objectif, la promotion, la protection de l'opposition, le respect de l'opposition, au finish, que la population soit bénéficiaire.
Je suis tout à fait d'accord avec Mme Bazaïba, que je salue. Je lui ai toujours apporté mon soutien dans tous les combats qu'elle mène. Je suis vraiment de cœur avec elle et puis j'apprécie beaucoup ses encouragements par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et ça me rassure aussi parce qu'il y a eu certaines mauvaises langues qui ont commencé à dire que voilà, oui, ce genre-là, ils veulent déranger les risques de Jean-Pierre Bemba. Et quand Mme Bazaïba, qui est cadre du MLC, dit cela, ça me rassure. Et je vous informe que j'ai été moi-même, j'ai fait des exécutifs de MLC, Thomas Louaka, pour lui remettre l'invitation pour venir à la séance d'ouverture du congrès et de la clôture. Bon, pour des raisons professionnelles, peut-être, il n'était pas là à l'ouverture et nous espérons qu'il sera là à la clôture.
Christian Badibangi, vous avez aussi suivi l'intervention d'Eve Bazaïba, la lecture qu'elle fait de votre congrès. À quand alors le congrès entre l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire?
Oui, monsieur, nous avons deux grandes difficultés, des difficultés majeures. Nous estimons que l'opposition parlementaire doit envoyer des signaux efficaces pour démontrer et faire valoir la qualité d'être à l'avant-plan lorsque nous savons que le corps électoral pour désigner les coordonnateurs nationaux de l'opposition viendrait de cet corps de parlementaires. C'est de ce côté-là que je demanderai à Mme Zaïba de travailler beaucoup pour faire dire aux autres que nous devons écarter l'égoïsme, nous devons écarter les mois personnels pour essayer de s'ouvrir pour les autres. La deuxième difficulté, c'est liée, nous pensons que M. Laurent Nkunda ne doit pas privilégier seulement la voie armée, parce que c'est dit politico-militaire. La dimension politique doit se retrouver dans l'opposition extra-parlementaire, dans des contacts avec cette opposition et présenter ses désirs et de manière qu'on puisse voir s'il est effectivement congolais qu'il puisse présenter sa situation d'abord dans l'organisation de l'opposition extra-parlementaire. La dernière difficulté, la troisième que je voulais dire, c'est liée aux moyens de communication de notre peuple. Parce que le directeur national de l'opposition estime qu'après les congrès, nous devons faire le parcours de toutes les 11 provinces pour expliquer à tous les autres extra-parlementaires qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer à Kinshasa les bien fondés de notre démarche et enfin cela va consolider la démocratie.
Merci beaucoup Christian Badibangi et au revoir.
Radio-Canada, grand témoin.
Grand Témoin vous fait découvrir Gaston Bindo, ancien directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi et actuellement président du Mouvement pour le bien-être des Congolais MBC, parti de l'opposition extra-parlementaire. Sauf erreur de ma part, Gaston Bindo, vous êtes frère de l'artiste musicien Fedino Yogo, autrefois musicien de Zaïko Langa Langa et président de l'orchestre Ngwakaye. La musique est une tradition familiale?
Vous savez, mon père était choriste, ma mère aussi, et nous sommes tous passés par la chorale et nous avons appris la musique dès notre jeune âge. J'ai des sœurs qui chantent très bien, des frères qui chantent très bien, des neveux aussi, comme mon neveu Lola. Je dirais, nous avons grandi
dans la musique,
dans les chants. Et je me rends compte que c'est une très bonne chose parce que ça nous a permis, quelles que soient les difficultés que nous avons traversées dans la vie, d'avoir toujours le sourire, d'avoir toujours la bonté, d'avoir toujours la passion, le cœur pour les autres. Et ça, j'ai beaucoup appris de mon frère de Fredin de Yogo, qui était un artiste qui vivait toujours en paix avec tous les autres musiciens et avec tous ses mélomanes.
Par rapport à votre frère, il y a un auditeur qui a une question à ce sujet. On l'écoute.
Pour ça, je voulais aussi savoir, votre petit frère est un artiste au Congo que nous avons beaucoup aimé et il a pu réaliser beaucoup d'albums. Du moins, il était en vie jusque maintenant qu'il n'a plus à vivre. Mais quel de ces albums vous admirez beaucoup?
Dindo Yogo, c'est votre grand frère?
C'est mon grand frère, c'est mon aîné de 6 ans.
Et lequel de ces albums vous avez apprécié?
Bon, j'ai beaucoup apprécié d'abord ces deux chansons. La première chanson qu'il a fait connaître à travers le monde musical, Lola Mwana, où il a donné des conseils à son enfant et à tous les enfants du Congo d'étudier pour devenir des hommes. J'ai aussi apprécié la chanson Mokili Changé, où il parle de grands changements à travers le monde, de changements à travers notre pays et à travers l'Afrique, notamment Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Je crois que cette chanson devrait retenir l'attention de beaucoup de Congolais parce que la vie n'est pas stagnante, la vie change. Et son album que j'ai beaucoup apprécié, où j'ai contribué moi-même en écrivant cette chanson, c'est l'album La vie est heureuse quand on se sent aimé.
Professeur, en parlant de votre frère, nous allons vous dédicacer sa chanson, Moi qui l'ai changé.
Ah, c'est bien ça.
Allô, je vais te dire que la vie est le droit de la paix pour mon développement. À travers cette chanson, nous avons hommage à ton excellence et à Esco-Mapoyo. Tu as été cherché dans la vie de l'enfant, afin que jamais la fraternité du Gabon parte pour la vie.
Gaston Bindo, à travers cette chanson, nous rendons un vibrant hommage à votre frère qui était un grand artiste. Qu'est-ce que cette chanson vous inspire?
La chanson, vous savez, quand il écrivait cette chanson, il revenait de l'Europe. Il m'a acheté le 3 tomes, le 3 volumes du bouquin de Karl Marx, Le Capital. Et comme il aimait bien aussi lire la philosophie, il disait des choses qu'il ne comprenait pas. Après, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai dit non, c'est Karl Marx parle de la dialectique. Comment la vie change, c'est à partir de on dit la vie est une thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse, et le changement continue, et donc la vie est un changement perpétuel. Alors 2 semaines après, il m'appelle dans son salon, il me dit écoutez un peu cette chanson. Il venait de faire la première répétition avec le guitariste, pour qu'il ait changé. J'ai dit, ah bon? Alors, on a discuté, j'ai donné quelques idées, et puis après, il est reparti avec Daiko. Parce que ce que vous venez de jouer, là, c'est la deuxième version.
La deuxième version.
C'était avec son groupe, donc la première version, c'était avec Daiko Langala. Ils sont partis au Japon, et puis de là, ils ont enregistré pour qu'il ait changé. Donc, c'était, j'ai retenu de cette chanson, c'est l'aspect philosophique de la chanson, et mon frère était beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré par la vie et la philosophie. J'exhorte les jeunes artistes congolais de beaucoup lire, parce qu'on fait passer des temps, beaucoup de temps à lire les magazines, à lire les bouquins, des livres de philosophie. Quelquefois, quand ils ne comprenaient pas, ils posaient des questions pour savoir. Il avait des amis qui étaient des professeurs d'université, parce qu'il a étudié au collège Boboto. Il y a des amis qui sont devenus des ministres, des professeurs d'université. Il discutait avec eux pour pouvoir comprendre certaines choses. J'exhorte les jeunes artistes congolais
à s'instruire,
à avoir un monde à travers lequel ils peuvent s'inspirer pour nous produire de belles œuvres.
Alors, continuons à écouter la chanson. Merci à Willem Lungamba et à Kevin Kouté de nous avoir proposé cette chanson. Professeur Gaston Dimbo, le mardi 18 juillet dernier à l'Assemblée nationale, les députés ont déclaré applicables les arrêts de la Cour suprême de justice. Ce vote est intervenu après un long débat sur le rapport de la commission Matadinenga. Cette commission était chargée d'examiner les arrêts de la Haute Cour, invalidant 18 députés nationaux. Quelle lecture l'opposition extra-parlementaire fait-elle de la validation de ces 18 députés nationaux?
La lecture est la suivante. Bon, l'Assemblée nationale a estimé qu'on ne devait pas aller d'irrégularité en irrégularité, donc en violant la Constitution, en refusant d'appliquer cet arrêt qui a été rendu dans des conditions d'injustice grave que l'Assemblée nationale a dénoncé. Et en même temps, ce qui retient notre attention à nous de l'opposition, c'est le fait que le juge de la Cour suprême ont été pris en flagrant délit de corruption. Donc ce sont des gens qui ne garantissent pas l'indépendance de la justice et qui ne garantissent pas la réforme de la justice, et l'Assemblée nationale a recommandé au gouvernement et au chef de l'État que la réforme de la justice soit initiée très vite et que le juge corrompu puisse quitter le cours de tribunal. Ça, c'est extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Si nous voulons assurer la paix, le développement et la stabilité de ce pays, nous devons réformer la justice, les brebis galeuses de la justice doivent être mises hors d'état de nuire. Alors, j'ai suivi la réaction des juges, mais ils se défendent, oui, mais eux-mêmes, ils devraient aussi faire un effort pour voir dans leur corporation ces brebis galeuses. Ils ne peuvent pas seulement se défendre. Nous connaissons la situation de justice dans ce pays. Tout le monde en parle. Il y a des émissions à la télévision. Tout le monde passe pour dénoncer. Voilà, on m'a arraché ceci suite à une mauvaise décision d'un juge corrompu. Nous vivons ça tous les jours. Alors, au lieu de se défendre, ils devraient eux-mêmes, en tant que syndicat de la magistrature, faire le nez voyage, commencer à faire la réforme eux-mêmes pour se donner un peu de crédibilité au lieu de s'attaquer aux députés qui les ont dénoncés à l'Assemblée nationale. Mais les députés sont des élus du peuple, ils ont le peuple a le droit d'avoir un regard sur la justice de son pays.
Gaston Dimbo, le Sénat a dernièrement adopté la loi portant statut de l'opposition politique. Est-ce que l'opposition extra-parlementaire se sent-elle concernée par cette loi?
Bien sûr, la loi nous donne notre cadre et la loi reconnaît deux groupes d'opposition, l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. C'est ainsi que, fort de cette loi, nous avons entrepris à nous organiser à travers ce premier congrès de l'opposition extra-parlementaire afin de constituer une plateforme, une coordination de l'opposition extra-parlementaire et entamer des discussions avec l'opposition parlementaire pour former une coordination unique. Ce qui me touche un peu, c'est le fait que le député de l'opposition qui ont reconnu l'opposition extra-parlementaire n'arrive pas à faire un effort eux-mêmes pour initier une rencontre deux familles d'opposition afin que l'opposition se mette d'accord. On parle seulement des coordonnateurs ou porte-parole de l'opposition, mais il y a toute une coordination de l'opposition à mettre sur place. Et moi, je sais que ce genre de projet existait parce que j'ai travaillé moi-même avec le coordonnateur de l'Union pour la Nation, Pasteur Kayemé, pour faire la synthèse des propositions de tous les membres de l'Union pour la Nation. Malheureusement, il n'y a plus d'assises de l'Union pour la Nation et qui proposait qu'effectivement qu'il y ait une coordination de toute l'opposition. Et la coordination, ce n'est pas seulement le coordonnateur ou le porte-parole, mais il y aura plusieurs représentants de toutes les tendances politiques de la rôle de l'opposition.
Merci, Gaston Dindo. Est-ce que vous accepteriez notre invitation dans deux ans pour faire le point de l'opposition extra-parlementaire?
Bien sûr, je suis à votre disposition.
L'équipe de Grand Témoin vous remercie d'avoir accepté son invitation. La réalisation de cette émission a été assurée par Kevin Couté et mise en onde par Willem Lungamba. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Au revoir. Thank you.